Comment lutter contre le cyberharcèlement ? Une émission spéciale présentée par Bénédicte Bossard.
Bonjour à tous, pour vous qui nous rejoignez pour cette émission spéciale, soyez les bienvenus sur nos antennes de RCF Alsace et Radio Judaïka. Nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure avec au cœur de notre rencontre un échange autour du cyberharcèlement. Ça part de petits mots au détour d'une phrase sur Internet. Au fil du temps, les attaques prennent de l'ampleur, allant parfois jusqu'aux menaces, aux insultes, au chantage. Vous connaissez tous l'affaire Mila lorsqu'en 2020, une adolescente de 16 ans a fait l'objet de menaces de mort après des propos qu'elle avait tenus sur Internet. Et les chiffres sont effrayants. 12% des 8 à 18 ans auraient déjà été confrontés à du cyberharcèlement, selon l'association e-enfance, tandis que 9% des parents déclarent que leurs enfants auraient été victimes de cyberharcèlement selon l'Ipsos. Alors face au cyberharcèlement, que peut-on faire ? Eh bien, c'est la question sur laquelle on va réfléchir aujourd'hui. Et pour ça, une animatrice à mes côtés. Bonjour Elisabeth Ascalas.
Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous. C'est un drôle de projet que nous avons accepté de relever aujourd'hui. Nous avions une journée pour créer une émission radio du début à la fin et pour fabriquer et enregistrer des spots sur la question du cyberharcèlement. Nous, ce sont les jeunes des conseils de ville lycéennes et collégiales des quatre écoles à Strasbourg. Les lycées René Cassin et Marie Curie, et collège Vauban et de l'Esplanade.
Et on vous retrouve d'ici quelques secondes, Elisabetta. Tu es, je le rappelle, au collège de l'Esplanade. Tu fais partie de la vie collégienne, donc du conseil de vie au niveau du collège. Et on vous le rappelle, c'est une émission diffusée sur vos antennes RCF Alsace, Radio Judaïka. Pour ça, nous avons posé nos micros au lycée René Cassin. C'est en enregistré, c'est en public et c'est parti.
Comment lutter contre le cyberharcèlement ? Une émission spéciale présentée par Bénédicte Bossard.
Flash info ! Une jeune lycéenne s'est suicidée après avoir été victime de cyberharcèlement. Elle avait seulement 16 ans.
Racontez-moi ce qu'il s'est passé.
Je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Nous n'avons pas fait grand-chose, juste des petites insultes pour rire, des montages vidéo en sortant des cours. Elle nous a jamais rien dit. Je n'aurais jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur.
L'intervention dès la première insulte est nécessaire. En cas de cyberharcèlement, appelez le 3018. Gratuit, anonyme et confidentiel.
Premier spot produit dans le cadre de cette journée de travail dédiée au cyberharcèlement. On écoutait à l'instant le travail du groupe L'Équipe.
Pour cette première partie, deux invités, Bénédicte, pour nous accompagner. Valentine Legros, vous êtes CPE au Collège international de l'Esplanade. Il est aussi présent aujourd'hui, Jean Gall, salarié et intervenant pour l'association e-enfance, une association qui parle de cyberharcèlement dans les écoles. Jean Gall, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que le cyberharcèlement ? Quelle forme peut-il prendre ?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, concernant le cyberharcèlement, c'est un harcèlement effectivement qui peut prendre plusieurs formes. C'est vrai que la première chose qu'on va penser, c'est les insultes sur Internet, c'est ce genre de choses. Mais ça peut être aussi les intimidations, ça peut être aussi le fait de répandre des rumeurs. Et puis nous, on parle aussi beaucoup de micro-violences. Par exemple, un simple like sur un commentaire ou sur une vidéo.
Juste le fait de liker, déjà, je fais partie. Je suis cyberharceleuse, par exemple.
Exactement. Parce qu'en fait, nous, on considère que le like, c'est donner son approbation. Déjà, liker, ça veut dire aimer. Donc, si j'aime un contenu qui est dégradant, qui est offensant, qui est raciste, etc., techniquement, on donne son approbation. Donc, nous, on considère que c'est du cyberharcèlement, effectivement. Ça peut être aussi le fait de spammer, par exemple. Ça peut être le fait de pirater, quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. Usurper l'identité de quelqu'un. Créer un groupe sur lequel on va diffuser des photos. Donc on pense beaucoup aux photos également, aux vidéos, etc. etc.
Valentine Legros, justement dans votre établissement, est-ce que vous avez été confrontée à ce genre de cas ?
Alors oui, on est confronté, je pense, toutes les semaines à ce genre de cas. C'est la majorité des conflits qu'en tant que CPE, je dois gérer. Maintenant, c'est finalement très peu des conflits qui commencent dans la cour de récréation, c'est majoritairement sur les réseaux sociaux.
Et vous en parlez aux parents ?
Ah oui, toujours, parce que de toute façon, nous, au sein de l'école, on ne peut pas tout gérer, parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est majoritairement après l'école, vu que le portable est interdit, du moins dans les collèges. Donc on est obligé de communiquer avec les parents qui très souvent tombent de haut en sachant ce que vivent ou ce que font leurs enfants.
Et jusqu'où vous pouvez aller du coup dans les recours, à part parler aux parents, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire ?
Oui, bien sûr. Alors ça peut aller lors de la punition, de la sanction, éventuellement du conseil de discipline. Après, nous, on invite aussi toujours les parents à porter plainte parce qu'il y a, il y a vraiment la dimension juridique à prendre en compte et que malheureusement, notre action peut être limitée au sein de l'établissement. quand c'est sur les réseaux sociaux, parce que on n'a pas trop la main. Donc on informe et on invite toujours les familles à déposer plainte.
Jean Gaël, vous pouvez nous expliquer les actions de l'association dans les écoles. Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, l'association Aïe Enfance existe depuis 2005, on est reconnu d'utilité publique. Et donc nous, on intervient dans les écoles, du CP jusqu'à la terminale. Mais on intervient également auprès des parents, des professionnels, parce qu'on considère que cet ensemble d'acteurs qui doit être sensibilisé pour pouvoir intervenir et gérer les situations de harcèlement. Alors, je ne sais pas si je parle maintenant du 30-18.
Oh, on peut le dire, on ne le dira jamais trop.
Ok, et donc effectivement, l'association Aïe Enfance, elle a le pôle intervention que je représente, mais on a également le 30-18, qui est le numéro court de lutte contre la violence faite sur Internet, gratuit, anonyme et confidentiel, qui permet de supprimer du contenu sur Internet, parce que nous sommes tiers de confiance auprès de tous les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Et donc, on fait à la fois cette suppression de contenu, mais on fait également beaucoup de soutien psychologique, de l'aide juridique, etc. Donc ça, c'est les deux pôles de Aïe Enfance.
On va y revenir justement sur tout ce que propose l'association, la façon dont vous exercez vos missions. Simplement, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quelques mots dans quel cadre elle a été créée, cette association ?
L'association Aïe Enfance a été créée en 2005, en tout cas, parce que on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une explosion des problématiques. Enfin, Internet avait complètement explosé à partir des années 2000. Et donc, très rapidement, avec cette explosion, est venu les réseaux sociaux avec Facebook en 2004, avec les smartphones en 2005. Et du coup, la violence est apparue sans forcément que derrière, il y ait un accompagnement pédagogique, un accompagnement des parents qui était également complètement dépassé par ça. Et c'est dans ce cadre-là que l'association a été fondée, en grande partie pour faire de la sensibilisation. Dans un second temps, en 2008, le 30-18 a été fondé pour pouvoir vraiment faire supprimer du contenu, de l'accompagnement psychologique, etc. Mais c'est en grande partie parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait accéder, sans forcément que les parents ou les professionnels se rendent compte que un mineur pouvait accéder à de multitudes de choses qui n'étaient pas adaptées à son âge, sans parler des contenus malheureusement pornographiques, par exemple, qui sont hyper accessibles et qui l'étaient d'autant plus avant, sans se rendre compte que il y avait de la violence, mais il n'y avait pas forcément de loi qui avait été créée pour lutter contre le cyberharcèlement. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'Aïe Enfance a été fondée.
Et toujours avec un soutien de l'éducation nationale ou pas ?
Alors là, vous me posez vraiment des questions hyper spécifiques. C'est sûr que nous,
Vous pouvez compter sur eux ?
Bien entendu, parce qu'en fait, on est partenaire privilégié de l'éducation nationale, sinon on ne pourrait pas intervenir dans les établissements scolaires. Donc oui, depuis un bon bout de temps, on a ce soutien-là, également un soutien de l'Europe, etc.
Alors, pour revenir sur ces missions que vous avez évoquées, il y a notamment ce soutien psychologique et cet accompagnement juridique. Il est important de rappeler qu'il y a des conséquences psychologiques pour les personnes qui subissent du cyberharcèlement. Ça peut aller jusqu'où ? Quelles sont les conséquences qu'on connaît aujourd'hui ?
Alors, la première chose auxquelles on va penser, ça va être les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Donc, effectivement, malheureusement, c'est une des conséquences du cyberharcèlement. Nous, on aime bien insister, chez Aïe Enfance, qu'avant d'en arriver à des idées suicidaires, vu que ça représente comme une personne sur 10, donc plus d'1 million de personnes en France, il y a quand même une tonne de conséquences sans rentrer dans les choses les plus extrêmes. Que ce soit, par exemple, la perte de l'estime de soi, chez nous, chez Aïe Enfance, on considère que c'est déjà quelque chose de très grave et quelque chose sur lequel il faut se mobiliser. La phobie scolaire également, tout ce genre de choses, la paranoïa, etc., sont déjà des choses extrêmement importantes qui peuvent, effectivement, si c'est sur la durée, si c'est pas pris en charge, amener à des situations aussi graves que des idées suicidaires, des tentatives de suicide. Mais le simple fait de prendre conscience que c'est pas normal de recevoir des micro-violences, de se faire insulter, c'est pas normal d'aller à l'école la boule au ventre en se disant « moi, je sais pas ce qui va m'arriver ce soir dans la cour » ou en allumant mon téléphone, nous, on considère que là, déjà, il faut intervenir et il faut se poser déjà les bonnes questions.
Valentine Legros, est-ce que des actions contre le cyberharcèlement sont mises en place dans votre établissement de l'Esplanade à Strasbourg ?
Alors, il y a des actions au quotidien, ne serait-ce que par le recueil de la parole, le soutien des personnes, prévenir les parents, etc. Ça, ce sont les actions au quotidien. On n'a pas fait cette année de projet contre le cyberharcèlement, à part aujourd'hui. Après, ça part sur l'éducation aux médias qu'on fait au quotidien, que nos professeurs font. Les professeurs documentalistes au CDI font un gros travail dessus. On a une semaine spécialement dédicacée aux médias, qui est la semaine déconnectée, où ils ont beaucoup travaillé sur le cyberharcèlement également. Donc voilà, c'est à la fois un travail de tous les jours et un travail de tous qu'on essaye de mener.
Qu'est-ce que vous pensez des actions proposées par des associations comme Aïe Enfance, du coup, qui vraiment une association qui se rend dans les établissements ? Est-ce que pour vous, ça peut être une piste ? Est-ce que ça peut même être suffisant, quelque part, pour vraiment tenter de lutter contre le cyberharcèlement ?
Alors c'est évidemment une piste, on est limité par le temps, malheureusement le cyberharcèlement n'est pas notre seule thématique, donc on a d'autres choses, on a aussi d'autres problématiques à traiter. ce sont des spécialistes, ce que nous ne sommes pas. Donc c'est toujours intéressant de s'appuyer sur des personnes dont c'est le métier, qui connaissent vraiment, qui savent vraiment ce dont ils parlent. Après, non, c'est pas suffisant. C'est une mobilisation de tous. C'est une action de 2 heures sur une classe. Ça va malheureusement pas changer le monde. Ce qu'il faut, c'est l'action de 2 heures qui va commencer à lancer une réflexion et qui sera reprise ensuite en classe par les professeurs, par les élèves aussi. Ce sont à la fois les premiers concernés, mais aussi les premiers acteurs. Donc, il faut vraiment les inclure là-dedans. Et pour moi, c'est une piste de départ, mais qui doit mener à d'autres projets derrière.
Par exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre ce phénomène-là?
Alors, il y a plein de choses qui existent. Il y a entre autres dans l'éducation nationale la médiation par les pairs qui existe. Donc, c'est une médiation entre élèves par les élèves. On estime que les élèves sont peut-être ceux qui sont le plus à même d'apprendre à gérer les conflits entre eux-mêmes. Donc, c'est une des possibilités. Après, c'est des travaux en classe. Il y a beaucoup d'expositions qui se font au CDI. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a quand même le phare qui va être mis en place dans tous les établissements à la rentrée. Donc, c'est aussi des pistes à privilégier.
Peut-être une dernière question. Vous évoquez les différents corps de métier, le fait que chacun finalement ait son rôle à jouer dans cette lutte contre le cyberharcèlement. Est-ce qu'au niveau de votre formation aujourd'hui en tant que CPE, on vous donne des outils ou c'est vraiment de l'apprentissage de terrain? Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à faire, un élément où on pourrait jouer justement sur la formation et des profs, mais aussi des CPE?
Alors moi, dans ma formation, j'ai eu une petite partie sur le harcèlement quand même, parce que en général, nous, les CPE sont les premières personnes à qui on va parler de ça. Je sais que c'est pas forcément le cas pour les formations de professeurs, ou alors c'est 1 ou 2 heures. Donc oui, c'est nécessaire. Après, il y a tellement de choses qui sont nécessaires que ça devient compliqué de tout faire. Mais oui, c'est quelque chose qui doit s'apprendre dès notre formation sur les premiers signes, comment reconnaître les signes dans une cour de récréation, comment faire la différence entre deux élèves qui jouent à chat et un élève qui cherche à s'échapper d'un autre élève. Ça, ce sont des signes qu'on doit apprendre à détecter.
Joguel, peut-être une réaction justement sur cette question de la formation des profs. Et aujourd'hui, comment vous les sentez? Parce que vous croisez bon nombre d'enseignants dans les établissements. Est-ce que vous les sentez un peu perdus ou en manque d'outils peut-être?
Ouais, voilà. Je pense qu'ils sont tous en fait en recherche d'informations parce que ils sont confrontés à ça quotidiennement. Et donc, c'est pour ça que l'association e-enfance forme des professionnels et que la plupart du temps, ils sont dans cette demande-là. Ils sont dans la demande d'outils, de recherche d'outils pédagogiques, mais également nous, ce qu'on demande régulièrement, c'est de faire une longue formation, par exemple, pour expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. Parce que je peux parfaitement comprendre que des fois, c'est un petit peu obscur de comprendre ce qui se passe dans Snapchat avec les flammes ou sur TikTok. Surtout quand on a juste un point de vue extérieur à ça.
Vous nous traduirez ça tout à l'heure.
Ouais, je peux essayer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a cette demande-là et on fait en tout cas énormément de formations auprès des professionnels, mais également aussi au part des parents. Moi, je trouve que ça en revient un peu à la même question, parce qu'on a aussi les parents qui sont dans cette demande-là, de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on on se mobilise auprès des jeunes, auprès des parents, mais également auprès des professionnels.
Voilà qui vient terminer cette première rencontre. Je vous propose dans quelques instants de retrouver notre deuxième animateur, Maxime. Un peu de musique à présent. Nous sommes avec Kin V et le titre Petite Émilie. Nous l'avons choisi parce qu'il parle de l'harcèlement. Merci Bénédicte et au revoir.
Merci beaucoup.
Sa vie et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour toute sa mère, en était la prunelle. Ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Elle a déménagé, fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie.
j'étais. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonne petite joue. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le sauve-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux,
À l'instant, c'était Kinvé, Petite Émilie sur RCF, Alsace et Radio Judaïka. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale dédiée au cyberharcèlement. On est depuis le lycée René Cassin. On réfléchit aujourd'hui aux moyens de lutter contre ce phénomène. On va le voir ensemble qui gagne de l'ampleur.
Comment lutter contre le cyberharcèlement ? Une émission spéciale présentée par Bénédicte Bossard.
Rumeurs, insultes, menaces, piratage ou encore revenge porn sont les nombreuses formes que peut prendre le cyberharcèlement.
On parle souvent des auteurs et des victimes, pourtant les témoins jouent un rôle tout aussi important.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accuse ceux qui propagent.
J'accuse ceux qui ne réagissent pas.
J'accuse ceux qui encouragent les auteurs.
J'accuse ceux qui ne soutiennent pas la victime.
Et j'accuse tous ceux qui ferment les yeux.
Tous témoins, tous concernés, si tu ne fais rien, tu deviens complice.
Parle-en au numéro vert du 3018 ou au 3020.
Et c'est un spot réalisé cette fois-ci par le groupe Totally Spies, dans le cadre, on va l'appeler comme ça, de ce Radioton, cette journée entièrement dédiée au cyberharcèlement. Vous l'avez compris, si vous venez de nous rejoindre, on réfléchit aux moyens d'agir pour y faire face, avec aussi cette question des limites. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on l'éradiquer? Peut-on vraiment, d'ailleurs, supprimer le harcèlement en ligne? Des questions posées, un projet porté par les conseils de vie collégienne et lycéenne de quatre établissements strasbourgeois. Je les rappelle, les lycées René Cassin, Marie Curie, les collèges Vauban et de l'Esplanade. Et surtout, un nouveau représentant qui est avec nous en plateau, Maxime Skliarenko.
Bonjour. Bonjour Bénédicte, je suis Maxime Skliarenko. Je suis représentant au CVL, élu au CVL de Marie Curie, du lycée Marie Curie. Et nous avons maintenant deux nouveaux invités, enfin un invité qui était déjà là avant. Nous avons comme nouvel invité Janine El Alali. Bonjour. Vous êtes conseillère technique auprès du recteur de l'Académie de Strasbourg et référente harcèlement. Et nous avons toujours avec nous Jean Guel, salarié intervenant pour l'association e-enfance. Alors je commence avec une question pour Jean Guel. Vous avez dit que votre association a été créée en 2005 dans le but de donc, lutter contre le cyberharcèlement avec l'explosion qu'il y a eu justement des réseaux sociaux vers cette période-là. Et comment est-ce que vous, comment est-ce que le cyberharcèlement, ce boom du cyberharcèlement, est-ce qu'il a comment il a vraiment eu lieu? Comment ça s'est réellement passé?
Vous avez des chiffres, par exemple, voilà, à nous donner sur le nombre de cas où c'est encore difficile aujourd'hui d'évaluer sur le terrain?
Ouais. Moi, des chiffres, je préfère pas trop me positionner là-dessus parce que j'ai pas forcément des fiches. Donc, j'ai peur de vous raconter des bêtises. En tout cas, ce qui peut être sûr, c'est que vous allez retrouver toutes les informations sur notre site internet sur e-enfance.org. Maintenant, pour expliquer le boom, en fait, le boom du harcèlement est arrivé avec le boom du numérique, en fait. À partir de 2005, il y a la création de l'iPhone, on s'est retrouvés tous avec Internet dans notre poche, avec les réseaux sociaux en plus. Et donc, ça s'est retrouvé comme une extension vraiment, de tout ce qu'il y avait de positif aussi, le fait de rester en contact avec ses proches. Parce qu'il faut pas non plus oublier que nous, chez e-enfance, on parle beaucoup du négatif parce que, il faut en parler, mais il y a aussi du positif. C'est pour ça qu'on n'est pas contre les réseaux sociaux. Nous, on veut simplement faire en sorte que les gens l'utilisent correctement. Maintenant, vu qu'il y a eu une explosion, vu qu'il y a une multitude de personnes qui se sont mises dessus sans forcément avoir la pédagogie, l'éducation qui va avec, malheureusement, oui, ça a entraîné une mauvaise utilisation.
On a parlé des victimes, on a parlé du cyberharcèlement lui-même. Qu'est-ce qu'il en est du côté des cyberharceleurs? Qu'est-ce qu'on sait d'eux, de ce qui les porte? Est-ce que c'est parce qu'Internet, finalement, c'est un territoire ouvert?
Alors, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Premièrement, derrière un pseudonyme, je peux me sentir beaucoup plus... être capable de dire certaines choses que j'aurais pas osé dire en face. Deuxièmement, à travers deux écrans interposés, je peux pas forcément lire les émotions sur le visage de l'autre. Les neurones miroirs fonctionnent pas vraiment. Et du coup, je me permets de dire des choses qui sont extrêmement violentes, alors que je me serais peut-être jamais osé dire ça en face. Souvent, quand on va parler avec des agresseurs, l'une des premières réactions, ça va être, un, c'était juste pour rire, donc l'empathie a pas vraiment fonctionné. Et deuxièmement, je suis pas tout seul. Parce que y a cet effet de groupe. Et ce qui va également arriver, c'est ce côté aussi, 60 à 80% des personnes qui sont harceleurs ont été eux-mêmes victimes de quelque chose. Donc parfois, je fais reproduire qu'un schéma, malheureusement, que je n'ai fait que vivre, ou que je n'ai fait que connaître, et je reproduis, etc. etc.
Très bien. Janil El Alali, si vous êtes confronté à un cas de harcèlement, quels sont les modes d'action de l'Académie de Strasbourg pour faire face à ces affaires de cyberharcèlement, justement?
Alors, peut-être pour dire... Pour commencer en préambule, on va rappeler que la question du traitement du harcèlement date de 2011, c'est-à-dire que depuis 2011, on a des référents constitués sur tout le territoire national pour intervenir auprès des élèves victimes et puis aussi au niveau des établissements. Et depuis 2011, on prend en charge et on accompagne les situations d'enfants victimes, on se met en lien avec les établissements. Et on essaye de trouver des solutions, de faire comprendre où était le problème si c'était mal compris, ou alors de lever des problématiques de méfiance. Quand un enfant a été victime de harcèlement longtemps et que les parents ont l'impression, et l'élève aussi, qu'il ne s'est rien passé, il n'y a plus de relation de confiance qui s'établit, on ne peut plus travailler ensemble. Et donc le référent a pour rôle de faire de la médiation de façon à ce que l'élève puisse poursuivre sa scolarité en confiance avec les parents de façon systémique pour protéger tout le monde. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que finalement, la question du travail avec les auteurs était pas tellement efficace. C'est-à-dire que au niveau de la DGESCO, on s'est dit la punition, en fait, ne suffit pas. Il faut travailler autrement.
Pourquoi ?
Parce que les enfants qui sont auteurs n'ont de façon apparente pas de souffrance et pas de demande. Où est le problème dans une société où on peut se moquer?
C'est normal pour eux.
Voilà, c'est un repère banal dans notre société d'aujourd'hui, sauf que la loi ne permet pas ce type d'action. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on punit et qu'on déplace l'élève, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc la DGESCO a commencé à travailler avec nous. On était académie expérimentatrice depuis 3 ans maintenant. Pour changer de méthode, c'est-à-dire qu'on travaille maintenant avec la préoccupation partagée, avec la méthode de préoccupation partagée qui permet non plus de blâmer l'auteur, mais de faire en sorte que tout le monde, de façon systémique, puisse venir en aide à l'enfant qui est victime. Et ça change tout. Parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants, souvent, ou les jeunes, n'ont pas du tout conscience du mal qu'ils font. Et donc, la méthode de préoccupation partagée avec le dispositif phare change la méthode. La répression existe toujours pour les faits graves qui sont pénalement poursuivables, mais la prévention a changé de regard et on travaille ensemble de façon très systémique, c'est-à-dire que c'est aussi bien les enseignants que les parents, que les associations, que les élèves qui travaillent ensemble pour venir en aide à l'enfant qui est victime d'agression.
Merci beaucoup, Janine. Maintenant, Jean-Guel, une question pour vous, encore une fois. Quels sont vos conseils pour faire face au cyberharcèlement? Est-ce qu'il y a des astuces qu'on peut mettre en place pour éviter d'être victime? Je sais que votre association, justement, a un programme pour aider les parents, aider les élèves, aider les profs, pour pouvoir faire ça. Quels sont vos conseils, du coup?
Premièrement, déjà, se rendre compte que nous, on parle beaucoup du privé du public. Donc déjà, un truc bête, hein, mais se mettre en privé sur les réseaux sociaux, le fait d'expliquer, par exemple, que si je me mets en privé et que je n'accepte que des personnes que j'ai déjà rencontrées, déjà, ça limite quand même pas mal de dangers venant des inconnus. Et puis maintenant, nous, et en France, effectivement, on peut faire supprimer du contenu sur Internet. Mais ce qu'on dit toujours en intervention, c'est que la photo qu'on n'aura jamais besoin de faire effacer, c'est la photo qu'on n'a peut-être jamais envoyée. Donc nous, on réfléchit beaucoup sur la prise de conscience. Se poser cette question de, cette photo que tu t'apprêtes à envoyer, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Quel point de vue tu auras dessus? Qu'est-ce qui se passe si tes professeurs, si ton futur employeur tombe dessus? Quelle image ça renvoie de toi? Et puis, bah, il y a aussi l'importance de, pour ne pas être victime, surtout, c'est ne pas accepter dès la première insulte, en fait. Dès que je me retrouve dans un groupe où, par exemple, le groupe du collège, qui était, enfin, le groupe de ma classe, par exemple, qui était censé m'aider pour les devoirs, si d'un coup il commence à dériver et qu'on commence à partir sur des insultes sur quelqu'un, ou alors qu'on exclut quelqu'un de ce groupe parce qu'on l'aime pas, parce qu'il est nouveau, etc., il est important d'en prendre conscience et de se demander pourquoi on agit comme ça. Donc travailler encore plus l'empathie, se poser la question de qu'est-ce qui se passe si je me mets à la place de l'autre, etc.
Là, on parle beaucoup de prévention. Quand le mal est fait, jusqu'où vous pouvez aller? Vous avez expliqué en première partie d'émission que votre association était tiers de confiance. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on a acquis la confiance des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand nous, on contacte Snapchat, Instagram, Facebook, pour leur dire « Ok, là, il y a un contenu à faire supprimer parce que c'est du harcèlement, c'est de la diffusion de photos à caractère sexuel, c'est ce genre de choses », ils nous font confiance et ils font effacer le contenu beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est un truc qui est important de connaître. Mais encore une fois, un truc tout bête, si j'envoie une photo extrêmement honteuse à mon pote et qu'il l'a sur son téléphone, il enfonce pour pas rentrer dans le téléphone de ton pote. Nous, effectivement, on va pouvoir agir si ton pote s'amuse à le diffuser sur Internet. Là, ok, on intervient.
Janine El-Halali, toujours dans la question de la prévention, dans le volet de la prévention, l'idée, si je vous suis bien, c'est aussi de mettre tout le monde à contribution, de donner une action notamment aux enseignants, mais pour ça il faut du temps aussi pour les profs, et on sait que c'est compliqué parfois avec les emplois du temps, des scolaires aussi de leur côté, de trouver ces moments-là de parler de cyberharcèlement. Comment justement pousser les murs du temps quelque part pour réussir à glisser ces thématiques sociales par exemple comme celle-ci?
Alors vous avez raison, le cyberharcèlement n'est pas le seul problématique qui est rencontré en établissement, mais en même temps, un élève, il n'a qu'une vie, il n'a qu'une réputation. Donc il faut agir vite. Je pense que aujourd'hui la question se pose plus comme il y a 5 ans, où des fois on nous disait « oui, le harcèlement ». Aujourd'hui, non. La loi Balanant, d'ailleurs, confirme l'importance avec l'obligation de former les élèves, l'obligation de former les enseignants. Et donc, il faut... Et je crois que c'est acquis maintenant pour tout le monde qu'il faut réagir vite et de façon systémique et pour tout le monde.
Et pour ça, il y a un numéro de téléphone, on va le rappeler. Vous le rappelez, Jean-Gaël?
Le 3018. Le 3018, qui est disponible effectivement du lundi au samedi de 9h à 20h. Mais on a également un chat sur le 3018.fr. Et on a également développé une application dernièrement qui permet de contacter le 3018, qui permet d'envoyer des messages, mais qui permet également de stocker toutes les preuves du harcèlement dans un coffre-fort. Ce coffre-fort, les seules personnes qui ont accès, ça va être moi et le 3018 ensuite pour faciliter tout ce qui va être envoi d'informations pour supprimer les données, supprimer les photos, etc. Et ça permet de pouvoir rassembler tout ça dans un même endroit.
En France, 1 million de jeunes sont victimes de cyberharcèlement chaque année et beaucoup ne le savent même pas.
Si vous vous êtes fait insulter sur les réseaux sociaux plus d'une fois,
si une image de vous a été diffusée ou partagée sans votre consentement plus d'une fois,
si une rumeur sur vous est relayée plus d'une fois,
si vous avez été victime de piratage ou d'usurpation d'identité plus d'une fois,
alors vous avez été victime de cyberharcèlement. Contactez le 3018. Le premier mot blessant est déjà une insulte.
Et on rappelle ce numéro de téléphone, le 3018, à noter, à écrire partout. Merci à tous d'avoir été présents. Pour terminer cette émission, j'en profite pour glisser quelques remerciements à toute l'équipe d'enseignants des 4 établissements scolaires de Strasbourg. Un grand merci tout particulièrement à l'équipe du CDI du lycée Cassin pour son accueil. Et puis un grand merci aussi tout particulier à Anaë, Kamali, Loïs, Sergueï, Ulysse et Amanda. Merci à l'Académie de Strasbourg, également à Jonathan Anglaré pour ce beau projet. Aux lycéens, aux collégiens qui ont accepté de relever ce défi hors norme d'être torturés, enfin on l'espère pas trop, pendant cette journée, une seule journée, je vous le rappelle, pour monter des spots, les préparer, préparer cette émission sur le cyberharcèlement. C'est peu, surtout quand on est journaliste en herbe. Et puis merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation à Radio Judaïka et à l'équipe d'RCF Alsace, nos techniciens Nicolas Imbert et Robin Tardy. La suite au prochain numéro, on l'espère, pour un prochain Radioton sur une nouvelle thématique. Merci de votre fidélité à notre écoute. Tout de suite, le retour de vos programmes sur Radio Judaïka et RCF Alsace.